Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Donc, cher Julien, bonjour, merci de nous recevoir à l'occasion donc, du Printemps des Poètes. Hein. Vous êtes venu à Tours pour faire des lectures, des rencontres avec les lecteurs. Et vous ne venez pas les mains vides, puisque vous venez donc avec votre recueil de poèmes intitulé « Moisson ». Alors, qui a été publié, je crois, l'année dernière ?
Oui, oui.
C'est une anthologie, donc un choix. Alors, Est-ce vous ou l'éditeur qui avez fait ce choix ?
Oh, c'est moi. C'est un choix, évidemment, qui porte sur les différents recueils de poèmes que j'ai déjà publiés, évidemment, au cours des années passées. Donc, voilà, c'est un ensemble de poèmes qui, je crois, restitue assez bien mon parcours, hein. On voit très bien comment j'ai évolué au cours des années.
Alors ce choix, il est difficile, douloureux. Et est-ce que, quelque part, une anthologie, c'est à nouveau une écriture, une réécriture de vos textes, la façon de les choisir, de les combiner ? Est-ce que vous voyez ça comme une forme créative ?
J'ai essayé de constituer un ensemble qui a une cohérence et puis qui marque très bien la progression que j'ai eue. Parce que, bien sûr, entre les poèmes du début et ceux que j'ai écrits bien plus tardivement, il y a de grandes différences, non pas au niveau de l'écriture, de ma conception du poème, mais simplement au niveau de ce que j'avais à dire.
Et alors, pour commencer, avant de se pencher plus précisément sur les poèmes, j'aimerais que vous nous parliez de ce titre que vous avez choisi, donc « Moisson ». Et moisson au singulier. Alors, on sait que la nature a une place très importante dans votre œuvre, donc c'est vrai que le choix du titre paraît logique, mais moi, ce singulier m'interpelle.
Oh, c'est un titre qui m'est venu tout naturellement. C'est un peu la moisson de ma vie, hein. C'est un bilan. Et ce terme, bien sûr, il m'est familier, puisque j'ai eu quand même une enfance paysanne et qui est encore très présente en moi, même si elle est loin dans le temps. Mais c'est vrai, donc, moisson, ça m'est venu après avoir écrit trois petits vers qui se présentent ainsi. Le temps de la moisson est plus lumineux que le temps des semailles. Donc voilà, c'est comme cela que ce mot moisson s'est imposé à moi.
Donc vous disiez tout à l'heure que donc moisson était construit sous forme de trajet, donc depuis une enfance assez douloureuse jusqu'à une certaine forme d'apaisement que vous semblez avoir trouvé aujourd'hui, donc un projet autobiographique autant que poétique. Est-ce que pour vous toute écriture est autobiographique ? Est-ce que vous pouviez imaginer une forme complètement fictive ?
Eh bien, pas tellement, parce que, en fait, je me suis toujours servi de l'écriture pour travailler sur moi-même. Pour moi, l'écriture a toujours été indissociable d'une aventure intérieure que j'ai vécue. Je pourrais même dire qu'au début, en écrivant un journal, j'ai, je crois, réalisé une auto-analyse. Donc, j'avais plutôt à me défier de l'imagination. Je me refusais, justement, à ce qu'elle intervienne. Donc, c'est vrai que tout ce que j'ai écrit est quand même de nature autobiographique. Mais je voudrais préciser très vite qu'il ne faut pas voir là du narcissisme, hein. Simplement, eh bien, on ne peut bien parler que de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a enduré, pensé, etc. Donc, voilà, moi, j'ai, je dirais, subi cette nécessité de me servir de l'écriture comme d'un instrument d'intervention sur moi-même pour me connaître et pour me transformer.
Et alors, ce qui est paradoxal, c'est que donc vous revendiquez cette forme autobiographique, et quand on lit vos poèmes, alors la forme grammaticale la plus évidente, c'est la première personne, pour parler de soi, et pourtant, dans vos poèmes, vous choisissez plus souvent des formes de deuxième personne avec le « tu », ou de troisième personne avec le « il ». Alors, pourquoi cet apparent paradoxe ?
Parce que, quand j'écris, je me mets quand même toujours à distance de moi-même. Et donc, c'est vrai que je me méfie de, évidemment de la complaisance. Et puis aussi, je veille à toujours dépasser ce qui peut paraître particulier. Hein. Donc, tout ce que j'écris tend à être universel. Donc, je cherche à extraire, si vous voulez, on pourrait dire, le permanent de ce qui passe, de l'impermanent. Hein.
Donc, voilà. C'est aussi une forme pour laisser la place au lecteur. Et ce lecteur, quand vous écrivez, il a quelle place, en fait ?
Mais je crois quand même que pour bien écrire, il ne faut surtout pas penser au lecteur. Il faut simplement, évidemment, avoir ce désir, comme je le disais, de dépasser ce qui est par trop fugitif, hein, pour l'inscrire dans une certaine permanence. Mais autrement, je ne crois pas penser au lecteur. D'ailleurs, comment le définir, ce lecteur ? Parce qu'il y a des lecteurs, des lectrices très différents dans les âges, dans les... Enfin, que sais-je. Donc, non, je ne crois pas penser à un lecteur, mais c'est vrai que je dirais que j'ai toujours souci de communiquer, hein, d'être clair, d'être compréhensible, ça, alors pour moi, oui, c'est une donnée, une obligation importante.
Et alors, si on revient à la poésie à proprement parler, alors vous racontez dans vos livres que vous êtes venu finalement assez tard à la littérature, à partir de 20 ans à peu près. Quelle place a pris la poésie dans votre formation intellectuelle, culturelle ?
Oh, je ne parle pas en ces termes. Pendant de longues années, je n'ai pu écrire que de brèves notes de journal et aussi des poèmes très courts qui me venaient comme ça, qui m'étaient dictés. Donc pendant longtemps, je ne savais d'ailleurs pas bien où j'allais, ce que je faisais, mais ces petits textes s'imposaient à moi. Et puis après, j'ai continué parce que cette forme d'écriture brève me convient. Donc les poèmes se sont vraiment imposés à moi en différentes saisons, parce que je ne peux pas décider d'écrire des poèmes. Parfois ils se présentent pendant une certaine période, et alors je ne peux plus écrire de la prose. Et inversement, si j'écris de la prose, je ne peux plus écrire de poèmes. C'est ainsi.
C'était une de mes questions, vous me devancez, parce qu'effectivement on remarque une cohérence dans votre œuvre qui est absolument remarquable. Et moi, une des questions que je me posais justement, c'était à quel moment vous décidez d'écrire plutôt en poésie, en prose ?
Je ne décide pas. Voilà. Je subis les événements intérieurs, mon activité intérieure. Donc parfois, je marche, j'écris beaucoup dans ma tête en marchant. J'écris aussi pendant mes insomnies, j'écris dans ma tête. Et voilà, des choses me viennent et je n'ai pas à les vouloir, je n'ai même pas à les travailler. Je ne veux pas dire pour autant que l'écriture me soit facile et qu'elle se présente toujours comme cela, sous l'aspect d'une dictée intérieure, pas du tout. Hein. Je suis en fait quelqu'un de très laborieux, hein, et j'écris très très difficilement. Mais c'est vrai aussi donc que parfois, des textes me sont littéralement dictés auxquels je n'ai rien à reprendre.
En fait, l'écriture, c'est entre nécessité et travail. Et vous dites, que souvent vous avez des formules, alors j'en ai relevé une notamment, où vous dites, alors ça c'est dans votre journal, le troisième journal, où vous parlez de votre besoin de polir les mots, de les graver dans la pierre. Et on sent vraiment effectivement un travail permanent, une recherche ascétique presque du mot juste.
C'est vrai. Je recherche toujours une grande précision, une grande concision, et puis aussi je cherche évidemment à respecter le rythme intérieur, et puis enfin je n'ai pas à le vouloir, ce rythme il s'impose à moi, et puis je cherche aussi à faire de la musique avec les mots, donc évidemment je suis très très attentif à la sonorité, à la musicalité des mots, aux enchaînements. et des mots et des phrases et même des paragraphes dans un même texte. Vous voyez, je suis très très soucieux de l'articulation, de tous ces éléments-là. Donc je travaille beaucoup. Parfois, il m'arrive de recopier une même page 4, 5 et même jusqu'à 12 fois. Ça m'est arrivé de recopier une page 12 fois simplement parce qu'elle est tellement raturée, illisible, que pour m'y retrouver un peu, bien, je la recopie. Cette page recopiée, je la retravaille et puis à nouveau, elle est illisible, donc ainsi plusieurs fois.
En fait, vous êtes loin du poète, une espèce de vision romantique du poète habité par l'inspiration, les muses, vous êtes... Une autre forme de poète.
Oui, mais je crois vraiment que tous les écrivains qui ont quand même le souci d'écrire avec une certaine exigence, eh bien, sont tous des laborieux. Hein. Quand on voit les manuscrits de Flaubert, de Proust, de tant d'autres, même de Pascal, eh bien, on s'aperçoit que tous ces gens-là ont beaucoup raturé.
Et alors, la forme même, vous avez donc, vous parlez de la musique, du rythme, qui est très important.
Très important.
Et on remarque que vous, alors je ne sais pas si c'est un refus ou une évidence, vous ne voulez pas de forme régulière. On ne va pas trop être sonné, par exemple, ou je ne sais quelle autre forme régulière. Alors pourquoi ce choix, ou encore une fois, est-ce que ce n'est pas un choix ?
Mais parce qu'un texte ne doit pas être préfiguré à l'avance, on ne peut pas décider. Et c'est le texte qui dicte lui-même sa propre forme. Hein, parce que au départ, on ne peut pas savoir si ce texte aura, je ne sais pas, si, dans le cas d'un poème, s'il aura 10 vers ou 20 ou 30. Donc, moi, je laisse venir ce qui doit venir et je m'y soumets. Mais je m'y soumets, évidemment, avec lucidité et avec un regard critique.
Alors, dans toute votre œuvre, ce qui est vraiment frappant, c'est un côté indissociable entre l'écriture et la vie.
Oui.
Alors, les mots peuvent-ils tout ?
Comment le dire ? Bien non, bien sûr que non, parce que quand on vit certaines choses avec beaucoup d'intensité, on s'aperçoit bien que lorsqu'après on veut tenter de les relater, de les dire, eh bien on s'aperçoit bien qu'il y a là une grande déperdition hein, par rapport à l'émotion. Mais c'est ainsi, évidemment, il faut travailler pour essayer à injecter de l'énergie, de l'intensité aux mots qu'on écrit. Parfois, on y arrive, parfois, plus ou moins.
Vous êtes un auteur satisfait en général, même si vous nous dites que vous avez besoin de travailler énormément pour arriver à une forme qui vous convienne. Est-ce que vous, lorsque vous regardez la forme définitive, vous êtes heureux de ce que vous avez écrit ? Ou est-ce que vous dites toujours « Ah, je pourrais le reprendre, le réécrire, le reformuler » ?
Non, je ne peux pas reprendre ce que j'ai écrit dans la mesure où je l'ai tellement travaillé que je ne vois pas comment je pourrais améliorer ce que j'ai écrit. Donc en principe, non, je n'ai pas à revenir sur ce que j'ai écrit. Autrement, il y a souvent beaucoup d'insatisfaction, de regrets ou de doutes. Pendant très très longtemps, j'ai été vraiment taraudé par un doute fondamental, et je l'ai encore, sur la nécessité d'écrire, parce que, bon, la vie est là avec tous ces problèmes qui se posent au niveau de l'humanité, et on peut évidemment, enfin, je pense très souvent que écrire, c'est quelque chose de parfaitement dérisoire, même ridicule. Et pendant longtemps, cette pensée-là m'a vraiment entravé. Maintenant, je l'ai moins. Parfois, bien sûr, ça m'arrive dans des moments de découragement. Mais je dirais que j'arrive bien mieux que par le passé à surmonter ces doutes ou cette sorte d'ironie, d'autocontestation, si vous voulez, à mon égard.
Et alors, vous avez publié régulièrement dans des journaux depuis longtemps. On peut vous suivre à travers cette lecture.
Oui.
Alors, moi, vous êtes venu il y a 3 ans, je crois, à Tours. J'étais venu vous écouter. Il y a une question que je n'ai jamais osé vous poser parce qu'il y avait du monde. Je n'ai pas osé. Alors, j'en profite. Je vous ai sous la main. Je me suis toujours demandé, en fait, le premier journal que vous avez publié, vous ne saviez pas au moment de l'écriture qu'il allait être publié. Par contre, ensuite, c'était un accord avec votre éditeur. Donc maintenant, quand vous écrivez vos journaux, vous savez qu'ils vont être publiés. Oui. Est-ce que cela a une influence sur la façon que vous avez de les écrire ?
J'espère bien que non. Bien sûr que je sais maintenant que les notes de journal que j'écris vont être lues. Bien sûr, je le sais, mais vraiment, j'essaye de ne pas... Enfin oui, je parviens très bien à ne pas en tenir compte. J'essaye d'être authentique, de dire les choses avec le maximum de fidélité à ce que je perçois, à ce que je ressens. Vous savez, j'ai vraiment beaucoup appris aussi en lisant des journaux différents. Et je crois que quand on a une plume à la main, ce qui est mon cas, enfin un stylo, je crois qu'on ne peut pas mentir. Et que les gens qui se fabriquent un personnage, eh bien, ils sont les seuls à se duper. Parce que je crois vraiment qu'on ne peut pas cacher cette sorte de duplicité que certains entretiennent à leur égard. Enfin, moi, je n'ai jamais eu à me poser ce problème. Dès le départ, j'ai toujours cherché à être vrai, autant que je le peux. Et ça, ça a toujours été ma ligne de conduite.
Alors, est-ce que vous accepteriez de nous... Alors, soit de nous lire, soit de nous réciter un de vos poèmes. Donc, est-ce que vous voulez le livre ou est-ce que...
Alors, je vais vous en réciter un parce que c'est le seul que je connaisse et qui m'a été inspiré par une scène qui m'avait bouleversé, qui a duré vraiment quelques secondes. Qui m'a habité longtemps et après, voilà, ça s'est transformé dans ce poème que je vous dis.
Merci.
Un matin d'hiver, je me trouvais dans un train à l'arrêt, en gare de Bellegarde, c'est près de Genève, et une petite fille d'une dizaine d'années était sur le quai. Deux femmes se tenaient près d'elle et quand celle qui pouvait être sa mère l'a quittée pour monter dans une voiture, cette petite fille n'a eu aucune réaction. Épaules tombantes, bras ballants, elle est restée là, immobile, figée, ne disant rien, ne manifestant rien, sauf que on la sentait perdue dans un abîme de solitude. Accablée par une détresse qui la rendait inconsolable. Deux ou trois ans ont passé depuis ce jour, mais de temps à autre, il arrive encore que réapparaisse en moi ce petit visage en larmes, pétrifié par la souffrance.
Merci beaucoup. Alors je crois qu'il va être temps que je vous libère parce que vous êtes attendu de l'autre côté par oui. une foule en délire.
Ouais, du coup, j'espère bien.
Il va falloir que l'on se quitte, mais je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu donc nous parler de Moisson aux éditions POL et à très bientôt pour votre vous sortez un journal je crois
oui,
bientôt
à l'automne là ce sera le 7e tome.
D'accord, donc merci beaucoup et à bientôt alors.
Merci
au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Les poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.